Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes sur Radio Saint-Ferréol 94.2 FM en compagnie de Mélissa, Rosalba, Claudie et moi-même Kim. On vous propose d'échanger, de discuter, de parler des livres. C'est une émission qui veut vous faire partager nos lectures, nos coups de cœur, nos coups de gueule aussi, et puis faire participer, intégrer toutes sortes de récits du quotidien, de gens dans la rue, de gens dans les boutiques, qui aiment lire dans les bibliothèques, voilà, petits, grands, jeunes, vieux, voilà, on souhaiterait vraiment discuter avec vous des livres et du goût de lire, en fait. Voilà, je vais commencer par faire un petit tour de table et interroger Mélissa sur ce pourquoi elle aime lire, par exemple.
Bonjour, j'aime lire pour m'échapper du quotidien, pour m'éduquer, m'informer, me créer une petite bulle comme un refuge et m'y sentir à l'aise.
Et tu as commencé à quel âge, Mélissa ?
Avant le CP, avec les panneaux de signalisation. Puisque j'ai le souvenir de ma mère me racontant que je l'embêtais à lire les panneaux et elle m'avait acheté une vieille méthode de lecture avant d'entrer au CP. Mais sinon, ouais, à partir du CP, avec les livres que je trouvais chez moi ou chez mes grands-parents.
Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le nom de l'émission, c'est le Club des 5. Et ben voilà, on a tout de suite trouvé pourquoi, parce que en général, le goût de lire, il arrive quand on est petit, mais il peut survenir plus tard aussi. En tout cas, c'est le moment de la vie où on apprend à lire, où on est confronté aux livres et à tout cet univers qui s'ouvre à nous, quoi. Voilà. Je passe la parole à Rosalba qui va nous expliquer aussi. Pourquoi elle aime lire ou qu'est-ce qu'elle aime lire ?
Bonjour, moi je suis un peu une lectrice compulsive et peut-être la particularité, c'est que je lis dans deux langues, car le français n'est pas ma langue maternelle, c'est l'italien qui est ma langue maternelle. Donc autant que faire se peut, j'essaie d'alterner dans ces deux langues, puisque maintenant ça fait quand même pratiquement 60 ans que j'ai quitté l'Italie et ma grande hantise, c'est de perdre la fluidité et la facilité que j'ai à lire et à parler l'italien. Donc ce n'est pas toujours évident de trouver, oui, mais d'avoir le temps de lire dans les deux langues. Et ces dernières années, je pense que par souci de facilité, j'ai plutôt privilégié la lecture en français, mais je vais y remédier.
C'est une belle perspective. On est très content d'accueillir quelqu'un qui est bilingue. C'est pas si souvent que ça. Et qui pourra nous faire profiter aussi, évidemment, avec une connaissance peut-être plus approfondie de la littérature italienne. Je passe la parole à Claudie, qui va aussi nous parler de son goût de lire et d'où il vient ce goût de lire, Claudie.
Alors bonjour, mon goût de lire ne vient pas de la petite enfance, parce que moi j'ai détesté lire pendant très longtemps. En fait, je fais partie de la génération de la méthode globale et en fait je n'ai pas très mal appris à lire et j'ai eu l'impression de ne pas savoir lire pendant des années. Et c'est au lycée, je pense en préparant le bac de français, que j'ai découvert Maupassant. Et Maupassant a été l'entrée pour moi en lecture, parce que en fait, ces récits, j'ai trouvé que c'était une manière très simple. En fait. Je comprenais enfin ce qu'était un livre et je comprenais enfin ce qu'était une histoire. Du coup, merci Maupassant. Grâce à lui, en fait, j'ai commencé à aimer lire et à ne plus être dans l'échec et la non-compréhension. Voilà. Donc, moi, j'aime plutôt les récits, j'aime me faire embarquer. Et avec cette idée pour moi, c'est comme si je rentrais dans un sac de couchage et en plume. Et donc, voilà, je me laisse complètement immergée. Donc, voilà, c'est ça mon rapport à la lecture.
Oui, c'est très personnel. Hein. Chacune de nous, on a des expériences différentes, mais je pense que pour les auditeurs, c'est exactement la même chose. N'empêche que ça nous accompagne toute la vie. Et c'est ça qui fait que c'est précieux et important. Oui, Rosalba.
Oui. Et toi, Kim, tu ne nous as pas parlé de ta naissance à la lecture.
Ah ouais. Alors moi, je n'aime pas trop parler de moi, mais bon, là, on est à la radio, je suis un peu obligée. Donc, moi, ça vient de l'enfance, vraiment. C'est-à-dire, dès que j'ai su lire, je me suis plongée dans les bouquins, mais comme une porte ouverte sur un labyrinthe, des paysages, des voyages. Et en particulier, moi, j'ai souvenir d'un duo qui m'a marquée. C'est en fait dans la série Collection Verte, Bennett et Mortimer. Or, c'était deux petits garçons des Anglais qui, où ils avaient une dizaine d'années, soit un peu plus que mon âge, et il leur arrivait plein d'aventures. Ils s'échappaient de l'école, ils faisaient plein de bêtises, ils attrapaient des grenouilles et les ramenaient en classe. Alors moi, j'étais passionnée par leurs aventures et je me souviens, des fois, je passais des nuits blanches à mon âge, enfin toute petite, j'arrivais pas à me lever le matin pour aller à l'école. Donc ça m'a vraiment donné l'envie bizarrement de vivre quoi des aventures dans ma vie réelle quoi. Ça m'a orientée, ça m'a construite de façon intime, on va dire, la lecture de ces petits bouquins là. Ça a l'air de rien, mais ça vous suit toute la vie. Et je suis en train de reconstituer ma collection de bouquins de Bennett et Mortimer au fur et à mesure des vide-greniers. Et j'adore lire toujours aujourd'hui, pas que Bennett et Mortimer, mais ça, on en parlera justement tous ensemble autour de la table au fur et à mesure des émissions où on va se rencontrer. Donc l'émission aussi, il faut que je vous dise, le Club des Cinq, elle sera partagée en plusieurs parties. La première, c'est que toutes les quatre ou tous les cinq, enfin, selon combien on sera autour de cette table, on va vous échanger autour des bouquins qu'on a lus et qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas, voilà. Et puis, il y aura d'autres petites capsules autour d'échanges qu'on aura eus avec les uns et les autres dans la rue, dans les boutiques, dans les bibliothèques, autour de la littérature. On partira à la rencontre de gens qui aiment lire ou qui ont fait des bouquins, qui ont écrit, qui s'intéressent à la poésie, à d'autres formes d'écriture que le roman, hein, ça peut être des essais, etc. Donc on partira à l'aventure aussi, nous, toutes et quatre, et on vous proposera des petites capsules autour de sujets au fil de l'eau, quoi. Voilà. On pourra aussi aller dans des salons autour de la BD ou des choses comme ça, à la rencontre d'écrivains ou d'auteurs divers et variés, quoi. Là, on va poursuivre l'émission sur la présentation de Mélissa qui va nous parler d'un livre qui apparemment lui a beaucoup plu avec une héroïne qui, moi déjà, m'en a dit quelques mots, ça me fait rêver. Donc Mélissa, on t'écoute.
Oui, alors du coup, c'est un livre qui s'inscrit dans un genre particulier, qui est celui de la fantasy. Et si moi, je vous dis fantasy, spontanément, à quoi est-ce que vous pensez?
Peut-être héroïque, à rien. Héroïque
Zelda,
fantasy.
Non Zelda, je sais ouais. pas, une héroïne
Damasio.
Comme ça.
Ok, oui. Ouais, alors, plus particulièrement, là, ces 10-15 dernières années, c'est un genre qui s'est beaucoup développé et on retrouve souvent un peu le cliché de la jeune femme ou du jeune homme qui se découvre un destin providentiel avec des pouvoirs insoupçonnés et qui va changer la face du monde. C'est pas du tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, le titre de mon livre, c'est « Les aventures d'Amina al-Sirafi ». C'est un livre qui se déroule entre les 12e et 13e siècles dans un monde sur fond de décors d'océan indien et de folklore islamique. Alors que dans ce genre-là, la majorité des époques qui sont explorées, c'est plutôt médiéval, européen. Voilà. Et Amina n'est pas une adolescente frêle, à la peau blafarde et avec une chevelure rousse de feu. Amina, elle a une bonne quarantaine d'années, une fille qu'elle élève toute seule, plusieurs ex-maris qu'elle a choisis et dont elle s'est séparée. Et elle a un genou un peu capricieux qui lui fait mal quand il pleut, quand le temps est un peu humide. Je crois que c'est son genou droit et c'est le même que le mien. Donc, j'ai bien aimé ce petit parallèle. Et surtout, Amina, c'est une ancienne capitaine de navire pirate. C'est une femme qui est forte, qui est puissante, qui aime les habits richement décorés, les belles armes bien forgées et les hommes séduisants. Et en fait, elle a écumé les mers avec son navire et tout son équipage pour dégoter des reliques magiques, explorer le monde entier, se faire une réputation d'une femme capitaine redoutable et aussi sensuelle. Et puis, un jour, elle vit peut-être l'aventure de trop et elle décide de se retirer dans un endroit qui est reculé de la civilisation pour élever en compagnie de sa maman sa fille, donc sans mari, sans papa. Et lui offrir un univers qui soit différent de la vie qu'elle a connue, qui était très très riche, mais pas forcément compatible avec l'éducation d'une enfant. Et donc elle est dans cette jungle toute seule, isolée dans une cabane, voilà, toutes les trois entre femmes de trois générations différentes. Et un jour débarque une grand-mère, très très riche, qui vient d'une famille noble. Et la petite fille de cette grand-mère a été kidnappée. Et elle va manipuler Amina, la menacer la vie de son enfant, pour qu'elle accepte, contrainte et forcée, d'aller chercher sa petite fille dans une mission qui, on s'en doute, est très très périlleuse. Amina, le titre du livre, donne quelques indices, puisque ça s'appelle « Les aventures d'Amina et le Sirafi », accepte la mission et comme c'est une femme intelligente, elle sait qu'elle ne pourra pas y arriver toute seule. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide avant de partir d'aller récupérer ses amis et anciens membres d'équipage qui ont des compétences exceptionnelles et dont elle va avoir besoin dans son aventure. Donc elle va voir une de ses amies qui est herboriste et empoisonneuse. C'est bien d'avoir cette double compétence. Un de ses amis qui est cartographe et navigateur de génie, qui sait se repérer absolument partout sur le globe et qui a une collection de cartes très très grande. Et le troisième membre de ce quatuor un peu détonnant, c'est un ancien esclave qui a été affranchi, qui est très très musculeux mais surtout loyal. C'est quelqu'un de fidèle avec une très belle âme. Et donc ces quatre...
D'habitude ça va pas ensemble, Lisa.
Bah écoute, tout est possible dans la littérature et encore plus dans la fantaisie. Et ces quatre-là vont récupérer le navire pour partir à la recherche de cette petite fille disparue. Mmh. Voilà pour vous donner un petit peu le goût de lire Les aventures d'Amina el-Sirafi. Et c'est écrit par Shannon Chakraborty, qui est une autrice américaine, née au milieu des années 80, dans une famille catholique. Et elle-même s'est convertie à l'islam pendant son adolescence. Et c'est un point qui est important parce que dans toute son œuvre, je crois que ça doit être son quatrième roman, elle a écrit une trilogie avant, elle inscrit ses aventures et ses histoires dans un décor et dans un folklore où la source religieuse, c'est le monde musulman. Et c'est des choses qu'on va retrouver dans son œuvre. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est le personnage d'Amina, qui est truculent, qui est gris. Donc on n'est pas les bons contre les mauvais. Voilà, on en apprend un petit peu plus sur sa vie de capitaine pirate, comment est-ce qu'elle a rencontré ses acolytes. Les personnages secondaires sont bien construits, ils sont nuancés aussi. Et si vous avez envie de voyage et de remonter le temps, c'est vraiment un chouette livre.
Et ça fait partie d'une série de bouquins ou c'est qu'un livre on peut suivre les aventures d'Amina sur plusieurs épisodes, on va dire.
Alors, c'est le premier tome d'une saga. Donc,
ah oui,
si vous êtes du genre à enchaîner les tomes, il va falloir attendre plusieurs années qu'elle ait tout écrit.
D'accord.
Mais si vous voulez faire durer le plaisir, vous pouvez commencer dès maintenant.
D'accord, ok. Bah, merci Mélissa, ça donne envie vraiment, moi, voir une héroïne de 45 balais un peu boiteuse, franchement, ça me fait rêver. Et on n'a pas l'habitude de ça, franchement, c'est bien. C'est bien, moi je peux me projeter complètement là-dedans.
On peut tout être un peu des Amina en tout cas.
Ouais, je pense aussi. Merci encore. Alors Rosalba,
oui.
Toi tu vas nous parler d'un autre univers,
oui,
complètement
alors,
différent je pense.
Complètement différent, à l'opposé, et c'est un livre que je n'ai pas aimé. Alors peut-être pourrez-vous vous demander pourquoi est-ce qu'elle nous présente un livre qu'elle n'a pas aimé? Eh bien, parce que comme beaucoup de personnes, je suis parfois sensible à ce que j'entends, à ce que je lis sur les réseaux sociaux, sur les comptes de lecteurs auxquels je suis abonnée, à la grande librairie, enfin, on va dire, à des gens qui sont ce qu'on appelle des prescripteurs. C'est-à-dire, si lui l'a aimé, j'ai des chances d'aimer ce livre. Alors, ce livre, en fait, j'avais été séduite par le personnage parce que dans une grande librairie, Augustin Trapenard, donc la personne qui anime la grande librairie, qui est une émission hebdomadaire sur France Télévisions, généralement, qui tourne autour des livres, généralement, en fin d'émission, il y a une capsule qui s'appelle « Droit dans les yeux » où l'un des auteurs intervient et s'exprime face au téléspectateur. Et j'avais été assez touchée par ce qu'avait dit l'auteur. Mais qui est-il donc cet auteur? Nous allons le nommer Panayotis Pascaux. Panayotis Pascaux.
J'en ai entendu parler.
Voilà. Ben moi, avant qu'il ait publié ce livre, je n'en avais jamais entendu parler. Alors évidemment, il n'est pas de ma génération parce qu'il a tout juste 28 ans. Donc, c'est un jeune homme rapide et pressé puisqu'il a commencé. Alors, il a aussi plusieurs casquettes. Moi, je suis toujours épatée quand je vois des gens qui sont comédiens, humoristes, réalisateurs, écrivains. Je me dis, mais comment ils font tous ces gens pour savoir faire tout ça? Alors que moi, j'ai exercé qu'un malheureux métier aussi autant que j'ai pu le faire. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'avais qu'une casquette. Alors, Panayotis Pascaux, il en a beaucoup.
Mais toi, t'es bilingue.
Oui, c'est vrai.
C'est pas le cas de tout le monde, hein. Tu sais, Panayotis, ça m'étonnerait qu'il soit bilingue.
Voilà, alors Panayotis, lui, il a commencé très tôt parce qu'il intervenait dans Quotidien, une émission sur Canal+, il me semble. J'ai jamais trop regardé. Où il faisait des capsules d'humour. Et il a fait ça en même temps qu'il préparait son bac S.
D'accord.
Voilà. Le bac L, c'est très très bien aussi. Hein. Je crois que ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, on s'en fiche. Mais voilà. Vive les bacs L.
Oui, effectivement. Enfin, lui, donc, il préparait son bac S et c'est comme ça qu'il a commencé à connaître la célébrité. Alors, j'ai lu des critiques très très négatives sur ce bouquin qu'il accuse d'être un fils de. Alors, son père, dont j'avais jamais entendu parler non plus, mais ceci explique cela, est quand même un type qui a l'air bien. Alors, pourquoi je vous parle de son père? Vous allez voir que dans le livre, le père a une importance. Et Philippe Pascaux, qui est aussi écrivain, scénariste, etc. Mais surtout, donc je me dis, bon, d'accord, il a fait ce fils, forcément, mais c'est quand même la fondation d'Anticorps. Donc,
oui.
Voilà, une ONG qui lutte contre la corruption. Et donc, et sa femme est aussi artiste. Enfin, on va dire que si on veut être méchant et rapide, on peut dire que c'est des bobos parisiens dans toute leur splendeur. Bon, on m'a déjà traité de bobo, donc ce n'est pas un jugement péjoratif dans ce mot. Et Panayotis est le sixième enfant de ce couple. Alors, donc, pourquoi j'ai parlé du père? Parce que dans ce livre, assez court, hein, puisqu'il ne fait que 200 pages, c'est une autobiographie. Donc, quand on écrit son autobiographie à 28 ans, soit on a vraiment quelque chose, un message essentiel à transmettre au monde, à l'univers, soit on est un tout petit peu narcissiste. Et là, je pense quand même, je penche pour la deuxième hypothèse. Voilà. Et donc, donc il oscille toujours entre savoir si il est un génie incompris,
oui,
ou quelqu'un, voilà, qui a rien apporté au monde. Donc, en fait, son autobiographie, elle parle de trois points importants. Alors, sa relation au père. Il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Sa relation au père. Donc, le père, au début du livre, convoque ses enfants et il leur dit qu'il va mourir. Et donc, lui, sa réaction, c'est « Je vais tuer mon père avant qu'il ne meure.
Enfin, » Tout à fait logique.
Voilà, exactement. Donc, une attitude très freudienne, bien entendu. Et voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc, il a beaucoup de choses à reprocher à ses parents. Mais c'est là où il est toujours dans un paradoxe total. Il n'empêche que dès qu'il ne va pas bien, ce qui arrive très, très souvent, et ben, il retourne chez papa-maman, où il se fait dorloter, ou dans une maison de campagne qui appartient à papa-maman. Donc, la relation au père, la mère, un peu aux abonnés absents, même complètement aux abonnés absents. Deuxième particularité de Panayotis, il est sujet à la dépression. Et évidemment, qui est responsable de cet état de fait ? C'est le père, d'où la volonté de le tuer. Donc là, il en fait une vraiment qui est très, très carabinée, une grosse, grosse dépression. Et donc, pour se sortir de sa dépression, eh ben, sa psy lui conseille de partir en voyage. Bon, déjà, quand on est vraiment au fond de la dépression, est-ce qu'on a envie de partir en voyage pour transporter sa dépression sur une côte de la Méditerranée ? Bon, je vous laisse juger. Et sa dépression est aussi un rapport avec sa vie sexuelle. Alors, il est homosexuel. Donc, ça fait très longtemps qu'il a fait son coming out et il n'y a pas de problème dans une famille de bobos pour accepter l'homosexualité. Donc, ce n'est pas ça qui fait question. C'est lui-même, parce que quand même, il est homosexuel, mais il a parfois du désir pour les filles. Bon, ça ne gêne personne en rien, mais c'est juste que ça devient vraiment un des centres du livre et il ne nous épargne rien de sa vie sexuelle et amoureuse et de ses multiples partenaires masculins et féminins. J'ai rien contre ça, je ne suis pas du tout bégueule, à condition, je veux dire, que ça relève de l'universalité ou que, à minima, ce soit très bien raconté. Donc là, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, donc
et pour boum, la bonne claque là.
Voilà. Pour un humoriste, c'est peut-être bien, mais là, on a l'impression qu'on passe directement d'une chronique, bon, qui peut être amusante, au texte écrit. Mais là, enfin, pour moi, en tout cas, ça passe pas. Ça passe pas du point de vue du contenu, hein, mais du point de vue du style. Encore que. Même le contenu, quand on est vraiment dans l'intimité des fluides personnels de quelqu'un, bon, moi, ça ne m'apporte rien, je veux dire, de savoir de quelle façon il va prendre son pied, passez-moi le terme.
Ouais. Donc finalement, à part sa dépression et ses problèmes sexuels...
Et sa relation avec le père.
Voilà. Il t'en restera pas grand-chose de ce bouquin.
Non, juste de dire que quel que soit le prescripteur, il faut quand même se méfier
ouais,
du
c'est
point
vrai.
De vue littéraire.
Donc, chers auditeurs, méfiez-vous aussi de nous, parce qu'on peut très bien vous proposer des bouquins à lire voilà. Qui ne vous plairont pas.
Ceci dit, j'invite les auditeurs, c'est un livre
et les auditrices.
Très rapide, et ouais. Les auditrices, très très vite lu, et qui a eu quand même, je vous lis quand même, la critique du Point, « Pascot tire chaque lame de son corps ». Et l'examine, nous la fait voir au gré de phrases lancées comme des coups droits, belles, urgentes, rythmées d'une sincérité de diamant, si pure que souvent sa propre émotion nous étrangle.
On voit bien que
je vous rassure, je n'ai été étranglée à aucun moment. Mais j'invite
on en est,
tout
on en est très content
voilà.
Parce que
j'invite
encore
tout un chacun. Voilà, j'invite tout un chacun à se faire sa propre opinion et à se lancer dans ce livre de Panayotis Pascot, dont je n'ai même pas mentionné le titre. C'est dire la prochaine fois que tu mordras la poussière.
Ben merci Rosalba, vraiment, on est parti à l'aventure avec toi. Bon, c'était un peu ardu parfois. On sent que lire, ce n'est pas toujours simple et on ne fait pas que des bonnes rencontres. Mais c'est aussi ça l'intérêt, hein, de partager autour de ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé. Claudie, toi, tu vas nous parler aussi de Panayotis Pascot ?
Alors non, parce que comme Rosalba, je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Moi, je n'écoute et je ne regarde pas du tout de critiques. Donc généralement, je ne suis pas au courant, mais je trouve que c'est assez révélateur des attachés de presse et quand même du milieu de l'entre-gens. Donc, en tous les cas, moi, ça ne me donne absolument pas envie de dépenser un penny pour ce bouquin. Parce que, voilà, non, en fait, merci Rosalba.
Merci d'avoir mordu la poussière pour nous.
Oui. Oui, c'est tout à fait ça.
Alors, moi, je vais vous parler d'un autre livre, moi, qui m'a été offert par une amie. Donc, ça s'appelle « La petite bonne » de Bérénice Picha. Donc, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, moi, je me suis juste un petit peu renseignée quand même sur Bérénice Picha. En fait, je crois que... Bon, je ne me souviens plus si elle a déjà écrit d'autres livres. En tous les cas, là, elle a connu un succès assez fulgurant avec ce livre. Ce livre donc, se passe dans les années 30. Enfin, on ne sait pas exactement. Il y a trois personnages principaux qui sont la petite bonne, monsieur et madame. On a cette petite bonne qui est la narratrice et qui nous amène et nous décrit quand même pas mal sa condition de petite bonne et ses questions sur ce qui se passe dans sa vie. Donc elle est d'une famille, sa mère était elle-même bonne. Mais c'est quelqu'un donc qui a énormément de bon sens. Enfin, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui effectivement est très consciente de sa condition. Et cette petite bonne va à plusieurs employeurs, dont une maison avec monsieur et madame. Et dans cette maison, la particularité, c'est que donc monsieur, en fait, c'est une gueule cassée, avec tout ce que ça comporte. Donc, il est absolument monstrueux, voilà. Et sa femme, donc, qui se consacre depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années à ce grand malade, et qui a mis sa vie aussi de côté, en fait, pour pallier à toute. À tout ce qu'il faut pour le bien-être, enfin le mieux-être de son mari. Et en fait, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour elle. On lui propose, enfin une amie à elle lui propose 3 jours d'escapade, en fait. Voilà. Et donc, après moult questionnements et culpabilité, elle décide d'y aller. Et pour ce faire, il lui faut quelqu'un à demeure. Donc, elle propose à la petite bonne, en lui doublant son salaire, de venir s'occuper de son mari. Bon, la petite bonne, elle, au départ, elle est un peu, enfin, elle a pas trop envie d'accepter, mais en même temps, deux fois son salaire, c'est énorme. Donc en fait, elle va y aller. Mais elle y va, cet homme est très est désagréable, donc fait tout pour la mettre mal à l'aise. Donc déjà, il la met mal à l'aise physiquement, mais il la met mal à l'aise dans son attitude. Bon, elle prend sur elle et elle y va. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une espèce de... Ben, en fait, ils vont se découvrir petit à petit. Alors, avec chacun leurs préjugés, évidemment, parce qu'on est dans deux milieux sociaux. Lui, il était musicien, mais ça, on le découvre petit à petit aussi. Et en fait, lui, il la prend pour une godiche, quoi. Enfin, pour une... voilà. Bon, pour, déjà, il la prend pour ce qu'elle est, une bonne. Et en plus, pour une espèce de godiche, voilà. Et il va lui demander quand même quelque chose d'assez particulier. En fait, il va lui demander de l'aider à mourir. Parce que lui, sa vie ne lui convient pas. Mais en fait, il n'a jamais eu la place de pouvoir dire quoi que ce soit ou le formuler, quoi, en fait. On se rend compte aussi que par rapport à sa femme, il mystifie. Il y a plein de choses qu'il ne montre jamais à sa femme. Donc en fait, la petite bonne, là, il se découvre face à cette femme. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une découverte de l'un et de l'autre. Voilà, des découvertes.
Sur le fond, alors moi, j'ai lu aussi ce bouquin. Ça, j'en avais parlé avec Claudie. Et ce qui m'a surpris, c'est à quel point l'autrice, grâce au style et grâce à sa façon d'écrire, de parler de la situation. Elle nous plonge dans une époque qui est celle des années probablement 30 à peu près, quoi, hein, une quinzaine d'années après la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, dans une société de classe où les écarts de niveau de vie sont faramineux. Et cette petite bonne, enfin, elle a une vie d'une âpreté, d'une difficulté, oui, qui est hallucinante, quoi. On a du mal à le croire tellement c'est impressionnant. Mélissa, ça t'évoque quelque chose de particulier ?
Moi, j'ai écouté tout à l'heure, Claudie, quand on se présentait, et tu disais que lire, c'était comme enfiler un sac de couchage. Après ta lecture et sans nous raconter la fin, il a quelle saveur, ce sac de couchage ? Est-ce que c'était quelque chose une lecture qui était lourde, ou est-ce que t'as éprouvé du réconfort en étant accompagnée par ces personnages?
Non, mais en fait, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, donc avec cette idée de demander ça à cette petite bonne, en fait, bon, je ne dévoilerai pas la fin parce qu'il y a vraiment il va se passer quelque chose, voilà. Moi, c'est plutôt, en fait, ce qui m'a interpellée dans ce bouquin, c'était aussi de se dire que tu peux vivre pendant des années à côté de quelqu'un qui se dévoue, par exemple, pour toi. Alors, donc, déjà, il y a l'idée de sacrifice parce qu'il y a une personne qui se sacrifie, mais l'autre, d'une certaine manière, a été sacrifiée parce que là aussi, il y a quand même l'idée de l'acharnement thérapeutique, de ce chirurgien qui a voulu, parce qu'à un moment il le dit, il a eu, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'opérations, tout ça pour avoir quand même, enfin, voilà. Donc on sent que cette personne, on lui a rien demandé, quoi. C'est-à-dire que le chirurgien, il s'est fait la main, il était très fier de lui, le chirurgien, parce qu'il a réussi quelque chose. Donc il y a aussi tout ce faux semblant, en fait, des gens qui se côtoient. Et je trouve la force aussi, c'est que la petite bonne, elle, dès le départ, en fait, très vite, ils se rencontrent d'âme à âme. Et ça, c'est magnifique, en fait, parce que justement, les classes sociales ou quoi que ce soit, en fait, on peut tous rencontrer des gens. Et ça, je trouve que c'est un peu, pour moi, la morale de ce bouquin, mais je le savais déjà, hein, c'est pas, voilà, elle ne me l'apprend pas non plus. Quelle que soit notre classe sociale, quel que soit ce qu'on peut vivre, on peut rencontrer les gens au niveau de nos âmes. Encore faut-il dépoussiérer tout ce qu'il y a à dépoussiérer, parce que quand même, ils se dépoussièrent les deux. Je ne sais pas trop quoi en dire de plus, si ce n'est que c'est vraiment un livre magnifique. Ouais. Il y a d'autres choses à dire. En plus, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais ça, c'est assez littéraire, et en fait, je ne sais pas trop comment aller là-dessus.
Moi, j'ai lu le livre aussi et je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai fait partager. Et au niveau du style, là, tu dis, tu sais pas quoi en dire. En fait, elle écrit différemment quand c'est ça fait un petit moment que j'ai lu. Quand c'est la petite bonne qui parle, quand c'est madame ou quand c'est monsieur, parce qu'en fait, c'est quand même un petit peu un roman choral. Oui, parce que l'écrivain donne parfois la parole à monsieur, parfois, et même typographiquement, je trouve ça c'est intéressant, il me semble me rappeler que quand c'est la petite bonne qui a la parole, c'est un vers libre, non ? Je me trompe ?
Alors bon, là, c'est pareil, vers libre, pour moi, ça ne veut rien dire du tout, donc
j'imagine. Mais typographiquement, c'est plus court, c'est ça que j'appelle vers libre, sur les phrases. Voilà, là, c'est elle qui parle. Enfin, c'est elle qui parle, mais elle ne dit pas « je ». C'est « elle reste debout ». En fait, c'est ça aussi, c'est un parti pris de l'écrivain qui est intéressant. Chaque personne parle, mais c'est toujours un narrateur omniscient qui prend la parole. Moi, j'ai bien aimé aussi le personnage de la femme, qui est aussi de madame, donc, qui est aussi sacrifiée, elle aussi, complètement sacrifiée, mais comme quelqu'un qui n'avait pas le choix. De même qu'on n'a pas laissé le choix au mari, comme tu disais si bien, elle non plus, elle n'avait pas le choix. Parce que dans son monde, si elle avait eu le courage, enfin, je ne sais pas si c'est un courage, mais il faut du courage aussi pour vivre avec quelqu'un au jour le jour, pour prendre soin au jour le jour d'une personne qui est dans cet état. Elle ne veut que personne d'autre ne l'aide. Alors, ce sacrifice qu'elle fait d'elle-même et de sa vie, dans quelle mesure est-ce un sacrifice qui est vraiment consenti ou un sacrifice qui est induit par le regard du reste de la société ?
C'est vrai que c'est moi aussi, donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin et bah, il se prolonge par des réflexions importantes, hein, sur plein de sujets. Et il nous poursuit longtemps, mais ça, c'est vraiment la marque des bons bouquins, en fait. Hein. Et ça permet aussi d'en parler. Je pense que dans quelques années, on pourra en reparler entre nous aussi. Il aura fait son chemin à travers des réflexions qu'on pourra partager les uns les autres, quoi.
Bon, je me sens exclue, je vais le lire.
Oui, oui. Après, j'ai rencontré des personnes qui l'ont détesté, hein, qui ne l'ont pas du tout aimé.
Moi, je l'ai acheté après ton intervention au Cercle des bouquineurs, parce que je me suis dit, oui, ça va me plaire.
Oui, c'est un bouquin, effectivement, qui peut plaire ou déplaire, mais ça, c'est bien, justement, qu'il n'y ait pas d'unanimité aussi et qu'on puisse en discuter. Alors moi, je voulais terminer l'émission pour vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui me poursuit parfois jour et nuit, en fait, et comme beaucoup de bouquins qui deviennent des amis, en fait. Je ne sais pas si ça vous fait cette impression parfois. Même des fois, on part bosser, on en met un dans son sac et on se dit « c'est ma petite relique, mon petit protecteur ». Et celui-ci, en tout cas, c'est un bouquin de Bérangère Cornu, qui est une écrivaine et philosophe à la fois. Et il s'appelle « De pierre et d'os ». C'est l'histoire de Aya, une jeune fille. Alors, c'est une héroïne aussi. Alors, par contre, elle n'est pas boiteuse. Hein. Elle galope à toute vitesse sur la banquise. Quand le livre débute, on suppose qu'elle a entre 12 et 14 ans. Et le livre débute par une scène particulière où, justement, elle a ses règles pour la première fois. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et donc, elle sort de son igloo, on va dire. Elle fait quelques pas sur la banquise. Elle entend un bruit phénoménal. La banquise se fend en deux. Et son morceau de banquise, enfin, le morceau sur lequel elle est, se détache. Sa famille reste dans leur habitation. Son père, sa mère, ses frères et sœurs. Et elle part comme ça. Son père sort précipitamment de l'igloo. Il lui jette une lance qui tombe à moitié à l'eau, une peau d'ours pour qu'elle puisse se protéger du froid, parce qu'il n'y a rien. On se situe à peu près dans les années 20 environ. Donc vraiment, on est face à une population qui est complètement détachée et qui n'a pas très peu de contact, hein, quasiment pas, avec le monde contemporain, occidental, extérieur. Donc ils vivent selon des traditions, des rites, des modes de pensée qui nous sont, enfin moi c'est ce qui m'a marqué quand j'ai lu ce bouquin, mais tellement étranger. On quitte ce monde qu'on, nous, on pourrait dire réel, c'est-à-dire avec des pendules partout, la notion d'heure, la notion d'espace, la notion de vie devient complètement différente. Là où nous, on ne verrait rien que du blanc, de la neige et du flou autour de nous, la population va voir, et Aya, elle a une vue extrêmement, je veux dire, précise. Elle va détecter le moindre mouvement, le moindre animal. Donc Aya, elle commence sa vie, puisque c'est une nouvelle naissance, hein, sans sa famille, avec quelques chiens, une peau d'ours. Et on va suivre ses aventures, on va dire, sur de nombreuses années. Et on part à la découverte d'un autre monde. Alors moi, je vous dirai pas, évidemment, elle fait des rencontres d'autres clans, d'autres personnes, des femmes. Alors il y a le personnage des femmes. Hein. Les femmes sont très importantes dans ce bouquin. Et on voit évidemment, comme dans notre société à nous, hein, que leur sort n'est pas forcément viable non plus. On quitte aussi des idées angéliques autour de la nature, hein. Le monde animal, qu'est-ce que c'est que la nature. Donc c'est un bouquin qui vous amène à vous poser plein de questions et qui vous fait sortir du monde dans lequel on vit. C'est vraiment un tremplin sur un autre univers et sur d'autres valeurs aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et l'approche de Bérangère Cornu, quand j'ai dit que c'était une philosophe, on peut se dire « oulala, ça va être compliqué, tout ça ». Non, son style, il passe par l'émotion, par tout un monde de ressentis, de saveurs. Et vraiment, on a l'impression de vivre à côté d'Aya, comme si on était sa meilleure amie, quoi, ou son meilleur ami.
Tu m'avais fait découvrir un autre livre de cette autrice et j'avais trouvé son écriture très imagée. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez visuel et j'avais pas de mal à me représenter ce que l'héroïne de ce livre-là pouvait voir, pouvait ressentir. Et on sent le côté philosophe dans l'approche, dans ce qu'on lit entre les lignes. Et je me demandais si c'est pour ce livre-là, elle avait fait des recherches sur les populations dans lesquelles elle situe l'histoire d'Aya. Est-ce que tu sais si elle s'est documentée ou est-ce que... C'est plus une inspiration qu'autre chose.
Je ne sais pas particulièrement si elle s'est documentée, mais en revanche, on a l'impression d'y être. Quoi. C'est, tout est, tout semble réel. Et dans la façon dont il vivait, la façon de construire un igloo, il y a plein de choses. Si on suivait ses pas et sa façon de vivre, on se dit, si j'étais dans la banquise, je ne mourrais pas en 5 minutes. Peut-être que je pourrais survivre. Pour autant, ce n'est pas un livre sur la survie en milieu arctique. Hein. C'est un livre sur l'essentiel, en fait. Moi, c'est ça. Ça m'a beaucoup touchée. Et même encore, à chaque fois que j'en reparlerai, je pense que j'en ai déjà parlé dans le cercle des bookineurs, dans le cadre duquel on se côtoyait avant avec Mélissa, Rosalba et Claudie. Mais à chaque fois que j'en reparle, il m'évoque d'autres choses et à d'autres moments de la vie aussi. Hein. Vous savez ce que c'est quand on parle de bouquins ou quand on relit des bouquins, on n'a pas les mêmes sensations. Mais à chaque fois, j'ai du mal à en percevoir le fond. Quoi. Il n'y a pas de fond à ce bouquin. Il y a tellement d'horizons, tellement de possibilités de percevoir des nouvelles sensations ou des nouvelles réflexions. Voilà. Moi, je ne peux que vous inviter à le lire, évidemment, mais... Bien sûr, il y a sûrement aussi des gens qui l'ont lu, qui ne l'ont pas aimé. Wow. Ah oui, juste pour finir là-dessus, il y a une adaptation en BD qui est formidable, qui est extraordinaire. Alors j'ai plus en tête malheureusement l'auteur de la BD, mais vous allez dans n'importe quelle librairie, vous demandez De Pierre et d'Os. Voilà, il est sorti aussi en BD et j'ai rencontré un libraire, il m'a dit pour moi c'est la meilleure BD de l'année. On verra bien, hein, mais peut-être on en parlera à Angoulême la prochaine fois. Voilà ce que je peux vous dire sur De Pierre et d'Os.
Moi, je l'ai lu et en fait, je n'ai pas du tout accroché dès le départ. Je ne suis jamais rentrée dans cette narration. Il me semble qu'il y a quand même... Enfin, parce que là, moi aussi, ça fait un moment que je l'ai lu, mais d'ailleurs, je ne l'ai même pas gardé dans ma bibliothèque, donc je ne peux même pas le relire. Presque ça me donnerait envie de le relire parce que tu en parles tellement bien que... Bon. Mais il me semble que, oui, en fait, il y a quand même beaucoup... C'est assez violent quand elle va vivre avec d'autres tribus, enfin d'autres, il me semble qu'il y a beaucoup
elle
de violence.
Ah, voilà, elle rencontre d'autres clans
et c'est violent avec les hommes et il me semble avec les femmes des clans, non?
Mais on sort dans un schéma de relation que nous on connaît, hein, et c'est des codes différents et c'est une façon de vivre. Qui tourne autour d'une forme de survie et de relations qui ne sont pas forcément fondées sur l'entraide comme on pourrait s'imaginer. Mais disons que on est dans un cadre dépouillé de convenances, on va dire. Hein. Et peut-être que ça nous renvoie aussi à notre vie, où parfois on fait semblant, hein, y a beaucoup de convenances et tout ça. Et en fait, quand on a vraiment besoin d'aide, on ne trouve pas grand monde. Donc en fait, c'est vrai que c'est... Ça renvoie vers un monde qui est vraiment dépouillé de chaleur, mais comme son nom l'indique, comme on pourrait s'en douter, ça se passe sur la banquise. Et effectivement, il y a de la violence, mais pas de la violence. Moi, je trouve. Alors, il y a de la violence au sens parce qu'elle subit des choses terribles, Aya, et c'est très dur à lire. Hein, c'est très dur à lire, et on se dit. Que c'est une femme, ça devient une femme extraordinaire aussi, qui a traversé plein d'épreuves. Ouais. C'est un portrait de femme incroyable, mais moi, ça m'a beaucoup renvoyé dans notre vie à nous, hein, où les femmes parfois subissent des choses vraiment terribles et où bah, ça peut tout aussi bien complètement les détruire, tout aussi bien, je veux dire, elles vont s'en sortir humainement parlant, elles vont être aidées, d'autres ne sont pas aidées. Donc en fait, ça nous, y a un prolongement direct, j'ai trouvé, avec le monde contemporain, la vie d'aujourd'hui. C'est un bouquin, effectivement, qui peut ne pas plaire, et je suis bien contente que Claudie puisse vous donner un avis différent, justement, parce que moi, j'ai tendance à m'emballer un peu, il faut bien le dire. Voilà, écoutez, on va terminer l'émission sur le plaisir d'avoir partagé aujourd'hui quelques lectures avec vous. Et on se dit à la prochaine fois sur d'autres aventures.
Sur 94.2 FM.
Voilà.
Amo cocadis, amanit sahel, chrysanthème canine, morsure varicelle, migale tarentule, épine, porte-avion, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, acide et calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice, cyclone, ouragan, camisole, typhon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Guillotine, cirrhose, nuit blanche, les bommettes, mirador, stasi, siphon, baïonnette, fleurie, mérogis, la rue, l'oriston, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Amygdale, pavot, vérole, aspirine, échymose, ortie, sanglot, carabine, carmélite, javel, cobra, charenton, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Camorra, péplum, cyanure, mafioso, Tiananmen, amen, rasoir et ciseaux, hostie, Vatican, Jean-Marie, mormon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Picador, arène, acide, Tchernobyl, atomes, neutrons, neurones et citrons. Et toi, c'est quoi ton petit nom ?